18 juillet, il est 16h. Merci d'écouter CILS FM 107,9. Bon début de semaine. C'est parti pour une nouvelle édition du débrief. Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. Aujourd'hui, en interview, j'examine avec Jean-Christophe Leblon l'actualité de la tentative de coup d'État qui a secoué la Turquie au cours de la fin de semaine. Jean-Christophe a beaucoup voyagé au Moyen-Orient, en Iran et en Turquie notamment. Il est un témoin attentif de la géopolitique de cette région du monde. Je note que notre conversation a été enregistrée samedi 16 juillet en fin de journée. On commence tout de suite l'émission avec les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. On continue ensuite dans quelques minutes avec les infos provinciales et locales. Bonne émission! La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Alors que les autorités politiques reprennent leur souffle suite à la tentative de coup d'État en Turquie la semaine dernière, eh bien le gouvernement canadien, lui, a profité du week-end pour réagir. Le premier ministre Trudeau a déclaré que le Canada soutient le maintien de la démocratie turque. Il a dit aussi que son gouvernement condamne toute tentative visant à renverser les institutions démocratiques de la Turquie. Justin Trudeau a confirmé que le gouvernement du Canada est tenu informé de l'évolution de la situation en Turquie. Le ministre des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine, Igor Cernadak, effectue cette semaine une visite officielle au Canada. Le chef bosniaque est au Canada jusqu'à mercredi. Il discutera entre autres avec le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion, au sujet des visées de la Bosnie-Herzégovine à devenir membre de l'OTAN. La sécurité régionale, l'extrémisme violent et la radicalisation, de même que le pluralisme pacifique, sont d'autres sujets qui seront abordés. Il s'agit de la première visite au Canada d'un membre du gouvernement bosniaque depuis 2011. Une nouvelle hausse des produits laitiers entrera en vigueur à compter du 1er septembre. Les prix du fromage, du yogourt, de la crème glacée et du beurre seront ainsi plus élevés. Pierre Cadieux, membre de la direction de Restaurants Canada, a dit que ces hausses de prix continuelles sur le dos des restaurateurs et des consommateurs n'est pas une solution à long terme pour les Canadiens. L'augmentation sera de 2,76%. Rappelons qu'une autre hausse est entrée en vigueur pour les mêmes aliments en février dernier. Semaine nationale de prévention de la noyade jusqu'à samedi, les instituts de recherche en santé du Canada rappellent que chaque année, environ 525 Canadiennes et Canadiens se noient et près de 60% de ces décès se produisent en période estivale. À l'occasion de la Semaine nationale de prévention de la noyade, eh bien la docteure Allison McPherson, chercheuse financée par les instituts, discutera de ses travaux sur la prévention des blessures et de la noyade. Les ministres Stéphane Dion et Marie-Claude Bibeau ont fait une déclaration suite aux frappes aériennes survenues à Alep, en Syrie. Ils ont dit que le Canada condamne fermement les attaques continues qui prennent pour cible du personnel médical et des établissements de santé. Ils ont ajouté que le Canada demande que cessent immédiatement les attaques contre les civils, les bombardements et les tactiques de siège. Ils ont aussi dit que la mort et la destruction provoquées par cette attaque sont consternantes. C'est aujourd'hui qu'a lieu la convention du Parti républicain à Cleveland. Les délégués des États se prononceront officiellement pour ou contre Donald Trump, vainqueur du processus des primaires. Plusieurs des adversaires de Trump ont confirmé qu'ils prendront la parole lors de l'événement, notamment Ted Cruz et Ben Carson. Ayant accepté la nomination à la vice-présidence, eh bien Mike Pence, gouverneur de l'Indiana, sera lui aussi présent. Publication de statistiques sur les ventes résidentielles. Publiée par l'Association canadienne de l'immeuble, les chiffres indiquent que les ventes ont baissé davantage à l'échelle du pays en juin 2016. On y apprend que le marché résidentiel canadien a baissé de 0,9% le mois dernier. De plus, le prix moyen des maisons a augmenté de 11,2% à l'échelle nationale entre juin 2016 et juin 2015. Santé Canada indique que l'entreprise Alert Inc. retire du marché canadien les systèmes de surveillance du temps de prothrombine InRatio et InRatio 2. Ces dispositifs mesurent le temps de coagulation chez les patients qui ont besoin de médicaments anticoagulants administrés par voie buccale. Selon Alert Inc., eh bien, il y a un risque que les dispositifs visés puissent fournir une lecture faible et inexacte, et cela pourrait donner lieu à un dosage inapproprié des médicaments menant ainsi à des problèmes de santé et même la mort. Au sport au baseball majeur, victoire de Toronto 5-3 contre Oakland. Les Jays sont en congé aujourd'hui. Ils seront en Arizona demain. Au golf, Henrik Stenson a mis la main sur le championnat de l'Omnium britannique. Le Suédois a ramené une carte cumulative de 264, un record en tournoi majeur. Tour de France, le Colombien Jarlinson Pantano a remporté la 15e étape qui a mené les cyclistes de Bourg-en-Bresse à Culose, 16e étape aujourd'hui et la 3e plus longue du Tour de Morian en montagne à Berne. Le Britannique Christopher Froome est toujours détenteur du maillot jaune. Et au hockey, Alex Killorn a accepté les termes d'un contrat de 7 ans pour 31,15 millions de dollars avec le Lightning de Tampa Bay.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107.9. Vous êtes dans l'émission Le Débrief. L'info se poursuit. On va enchaîner avec les nouvelles provinciales à présent. Crise de l'immobilier en Colombie-Britannique. La ville de Victoria souhaite également taxer les logements vacants. La ville de Victoria demande au gouvernement de la Colombie-Britannique de lui accorder le droit d'instaurer une taxe sur les logements vacants, sur le même modèle qu'une taxe récemment mise en place à Vancouver. La capitale de la province connaît, elle aussi, comme Vancouver, une pénurie de logements locatifs et une hausse importante des loyers. La semaine dernière, le ministre des Finances de la Colombie-Britannique, Mike De Jong, a donné l'accord de la province à la ville de Vancouver pour instaurer une taxe sur les logements laissés vacants. La ville de Vancouver a actuellement un taux d'inoccupation très bas, en deçà de 1%, 0,6% très exactement. Cette idée donc a séduit le conseil municipal de Victoria qui a voté en faveur de l'adoption d'une mesure semblable pour la municipalité. Je pense que cette taxe devrait être mise en place dans toutes les municipalités et pas uniquement réservée à Vancouver. La crise du logement est partout dans la province, a affirmé Jeremy Loveday, un conseiller municipal à Victoria du côté de Vic West dans une entrevue accordée à Radio-Canada. Même si le pourcentage de taxation n'a pas encore été déterminé par Victoria, cette mesure est destinée à inciter les propriétaires de logements vacants à les proposer sur le marché locatif. Le maire de Vancouver, de son côté, a laissé entendre récemment que la nouvelle taxe dans la municipalité de Vancouver serait appliquée uniquement sur les logements laissés vacants depuis plus d'un an. Les employés municipaux de Victoria vont commencer à recueillir les données sur le nombre de logements vacants de la ville, mais aucune décision sur la mise en place d'une taxe a encore été prise. Nous souhaitons avoir l'option de pouvoir créer une taxe. Cela ne signifie pas qu'elle sera appliquée immédiatement, a déclaré le conseiller Jeremy Loveday. Rappelons que le maire de Vancouver, Greg Robertson, avait appelé la province à accorder ce droit de taxation à toutes les municipalités de la Colombie-Britannique lors d'une intervention publique la semaine dernière. On reste dans le dossier de la crise de l'immobilier. Cette fois sur Vancouver, on apprend dans le portail de Radio-Canada aujourd'hui que Vancouver compte plus de 5000 logements disponibles pour location de courte durée sur des sites comme Airbnb, par exemple, selon de nouvelles données publiées par la ville de Vancouver. C'est le site Airbnb, donc, qui regroupe 85% des logements locatifs de courte durée à Vancouver actuellement. Les deux tiers des logements qui y sont proposés, donc sur ce portail Airbnb, sont des maisons et appartements complets plutôt que de simples chambres. Ces données montrent sans aucune ambiguïté que les locations de logements de courte durée ont une incidence majeure sur le marché locatif, selon le conseiller municipal Jeff Meggs. Il est plus que probable que des appartements autrefois loués à long terme sont à présent réservés pour emploi, le logement à court terme, a-t-il déclaré à Radio-Canada. Le taux d'inoccupation est de 0,6% à Vancouver et la municipalité s'est engagée à déterminer les conséquences des locations de courte durée sur le marché des logements de longue durée. Jeff Meggs souhaite établir un équilibre plutôt qui permettra la coexistence des deux offres locatives, soit longue durée et courte durée. Il ne s'agit pas d'interdire, a-t-il dit, mais nous devons nous assurer que la protection des consommateurs et la sécurité du public seront prises en compte. Donc voilà pour les dernières nouvelles concernant la crise de l'immobilier en Colombie-Britannique et particulièrement dans les deux grandes villes, Vancouver et Victoria. Autrement, il y a une autre crise qui, en 2016, a ébranlé la Colombie-Britannique, si vous voulez. C'est une crise sanitaire. On parle évidemment des surdoses de drogue qui ont connu une hausse très inquiétante depuis le début de l'année par rapport à l'année 2015. Il y a même eu un pic, une poussée fort préoccupante vers la fin de la semaine dernière. On a recensé 20 surdoses en 24 heures seulement dans la région du Grand Vancouver. Donc, la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, et l'organisme de santé publique Fraser Health de la Colombie-Britannique ont émis conséquemment un avertissement public en raison du nombre élevé de surdoses, soit 20 cas recensés en seulement 24 heures. Il est particulièrement troublant de voir autant de cas de surdoses dans une si courte période de temps et encore plus inquiétant de devoir administrer des quantités aussi importantes de naloxone, pour les traiter. On sait que le naloxone est une forme d'antipoison dans les cas de surdose. Donc, cette déclaration est de Victoria Lee, qui est médecin en chef de Fraser Health. Aucun des 20 patients, précisons-le, n'est décédé, a-t-il été précisé dans un communiqué émis samedi soir, mais deux personnes sont toujours à l'hôpital et ont reçu une dose de naloxone supérieure. La police rappelle que ce type de drogue, dont le fentanyl, qui a causé des dizaines de décès cette année, a pu faire l'objet d'une contamination croisée avec d'autres produits, de sorte que les personnes qui ne sont pas des utilisateurs d'opiacés pourraient aussi succomber ou être victimes d'une surdose. Feu de forêt en Colombie-Britannique, la météo sèche et chaude du printemps dans un premier temps a favorisé les incendies de forêt jusqu'à récemment à l'échelle de la Colombie-Britannique, mais les conditions récentes qui ont apporté un certain regain de pluie et de fraîcheur ont diminué les risques au cours du dernier mois. Conséquemment, un nombre inférieur de feux est en activité actuellement, donc un nombre inférieur de feux sont en activité plutôt actuellement par rapport à la même période l'an dernier. Selon l'agence provinciale BC Wildfires, la province de Colombie-Britannique a dépensé 111 millions de dollars l'an dernier pour combattre les incendies de forêt. Cette année, ce montant s'élève pour le moment à 72,7 millions. Jusqu'à présent, en 2016, on a recensé en Colombie-Britannique 533 incendies, lesquels ont ravagé près de 1000 km² de forêt. Les équipes de BC Wildfires se préparent toutefois pour l'ensemble de la province à un retour du temps chaud au cours des prochains jours. Donc, on va essayer de faire mieux que l'an passé. Les dernières semaines ont permis d'atténuer l'acuité du problème des feux de forêt, mais ça n'est pas terminé. Il reste plusieurs semaines d'été devant nous. Donc, voilà. Parlant de météo, justement, on va se tourner vers les données météo les plus récentes. On a 22 degrés au centre-ville de Victoria actuellement. Et du côté de l'aéroport, c'est 21 degrés. En soirée, je précise qu'il y a une probabilité d'averse qui se situe à 40% avec un risque d'orage. Donc, en soirée, un petit peu plus tard, dans quelques heures, probabilité d'orage avec averse probable à 40% en soirée. Donc, à surveiller, peut-être emporter avec soi un parapluie si on se déplace. Autrement, pour demain, on aura un mélange soleil-nuage et une probabilité d'averse de 30%. Le mercure montera à 21 degrés. Un petit peu plus loin, pour mercredi 20 juillet, on aura au mercure 21 degrés et une journée généralement ensoleillée, nous annonce Environnement Canada sur le site météo.gc.ca. On fait un petit arrêt. On va écouter La Patère Rose, une formation québécoise, avec sa pièce Décapote. On se retrouve dans quelques minutes avec la nouvelle du jour. À tout de suite. Formation La Patère Rose dans le débrief 16h19. Merci d'être à l'écoute de CILS FM. On va passer à la nouvelle du jour. C'est une nouvelle qui nous parvient du Moyen-Orient. Elle remonte à quelques semaines, mais je tenais à vous en parler puisqu'elle concerne par un retour un peu improbable, un lien inattendu. Elle concerne aussi la ville de Victoria. Connaissez-vous le cimentier Lafarge? C'est une multinationale, un cimentier, donc, comme le nom le dit, un fabricant de ciment, donc à échelle industrielle, dont la propriété est en partie détenue par une entreprise canadienne, Power Corporation. Donc Lafarge a des activités à Victoria. Si vous passez quelquefois sur le Bay Bridge, le pont Bay, oui, dans Victoria, vous apercevez sur le côté les installations du cimentier Lafarge Canada. Donc Lafarge s'est retrouvée dans les nouvelles fin juin. Parce que une drôle de situation s'est produite en Syrie où ils avaient une cimenterie puisqu'ils sont une multinationale, ils sont installés un petit peu partout dans le monde et en Europe aussi. Ils avaient une cimenterie en Syrie, mais ce qui s'est produit, c'est que cette cimenterie est tombée sous le contrôle de l'État islamique en 2013 et 2014 et ils ont dû cesser leurs opérations, mais ont pu finalement continuer. Et ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont versé un impôt à l'État islamique. Ils ont accepté de pactiser avec l'État islamique, donc ISIS, connu aussi sous son acronyme anglophone ISIS ou ISIL. Donc ça a fait grand bruit, ça a causé un petit scandale en Europe, puisque Lafarge est aussi propriété d'intérêts français. Et ça fait du bruit au point de d'être repris et en exclusivité par le journal Le Monde. C'était fin juin et ça s'intitule « Comment le cimentier Lafarge a travaillé avec l'État islamique en Syrie ». Donc c'est assez grave, c'est assez accablant. Ce sont des faits qui préoccupent et qui ont causé plusieurs réactions sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas été ensuite repris par de très nombreux médias. On peut le déplorer. Je vais vous lire un petit passage de ce texte paru dans Le Monde le 21 juin à propos de Lafarge qui a des activités, on le disait, ici à Victoria. La cimenterie du groupe Lafarge à Jalabiya, dans le nord de la Syrie, a payé des taxes à l'organisation État islamique entre 2013 et 2014 afin de continuer à fonctionner pendant la guerre. C'est ce que démontre une enquête publiée par Le Monde le 21 juin. Inaugurée en 2010, la cimenterie de Jalabiya, dans le nord-est de la Syrie, était le fleuron du cimentier français au Proche-Orient. Mais l'année suivante, la guerre civile a éclaté. La direction de l'usine a cherché à la faire fonctionner le plus longtemps possible dans un environnement dangereux et instable. Mais à partir de 2013, la présence de l'organisation État islamique, EI, dans la région a contraint la cimenterie à négocier des droits de passage aux checkpoints tenus par les djihadistes pour ses camions de livraison. Il a aussi fallu se fournir auprès des négociants en pétrole qui avaient évidemment des liens avec l'État islamique et dont les champs de pétrole étaient tenus par l'État islamique. Donc pendant un peu plus d'un an, Lafarge a indirectement financé l'organisation terroriste État islamique. C'était jusqu'à présent insoupçonné du grand public européen, français et canadien. Voilà, donc si vous voulez vous intéresser davantage à cette nouvelle qui concerne le cimentier Lafarge en activité ici à Victoria et dans de nombreux endroits du globe, puisque c'est une grande multinationale qui est en partie détenue par une entreprise canadienne, vous allez sur le site du Monde « Comment le cimentier Lafarge a travaillé avec l'État islamique en Syrie ». Donc voilà pour la nouvelle du jour. On va faire une autre petite pause musicale. On écoute le groupe Combustion Lente qui est mené par l'auteur, compositrice, interprète Myriam Parent, une résidente de Victoria. Et d'ailleurs, dans quelques minutes, je vous parlerai du concert que donnera Myriam le 19 juillet, dis-je bien, demain au Herman's Jazz Club. Donc on écoute la pièce « Être sur le bord de l'eau » et on se retrouve dans quelques minutes.
Sur le dos des vagues, les rayons du soleil se brisent, on dirait des étoiles, myriades de points d'énergie, d'une beauté sans égale, mini soleil aquatique qui glisse et parade en formation quelque peu chaotique. Soudain de rivage, un bruit difficile à saisir, chanson primordiale, douée d'un pouvoir inouï, le grand mystère sauvage qui brise le cœur humain, le guérit. Quelle splendeur, être sur le bord de l'eau, d'une entité pareille. Imaginez de l'abysse au glacier, de l'eau douce ou salée comme le
intéressante. Partir au sud en famille, tout le monde en vacances. Passer deux semaines en camping, lire reste de l'enfance. Une insouciance qui rend mélancolique. Quand enfin j'y entre, c'est d'abord à petite échelle que je ressens l'ombre d'une pulsation. Un cœur immense qui gronde, tonnerre sous-marin lassif qui monte et qui tombe et frappe mes os de mortel en péril. Quelle splendeur, splendeur, être sur le bord de l'eau d'une entité pareille, infiniment subtile, d'une profondeur. Glacier de l'eau, son soleil comme sont nos larmes. Sur le dos des vagues, les rayons du soleil se brisent, on dirait des étoiles.
Combustion lente dans le débrief, il est 16h27, merci d'être à l'écoute de CILS. C'est justement de combustion lente que je vous parle à présent dans ce petit agenda culturel d'aujourd'hui. Combustion lente qui va être à Victoria au Herman's Jazz Club demain le 19 juillet. Ça commence à 7h30. On vous recommande d'arriver peut-être un petit peu avant, vers les 18h50, 19h. Et combustion lente donc menée par l'auteur, compositrice, interprète Myriam Parent, résidente de Victoria, va ouvrir la soirée avec les pièces de son plus récent album, Bon gré malgré, et elle m'a dit en interview il y a quelques jours qu'elle aurait une nouvelle pièce à offrir aux mélomanes demain soir, donc c'est une autre raison de s'y rendre. Combustion lente donc qui ouvrira pour l'artiste franco-américaine Francesca Blanchard, qui n'est pas sans parenté avec certaines chanteuses, disons c'est du folk, grassroots, très français. Ça rappelle un petit peu Carla Bruni à certains, mais c'est très original, dit-on. Donc ce sera après la prestation de Myriam et de son groupe Combustion Lente. Donc demain, je rappelle que c'est au Herman's Jazz Club au 753 rue View, en plein centre-ville de Victoria. Ça commence officiellement à 7h30, mais vous pouvez arriver un petit peu avant pour être sûr d'avoir les bonnes places. Et sauf erreur, le prix d'entrée est de 10$. Donc au plaisir de vous retrouver demain pour ce concert. On va retourner en musique quelques minutes. On va au retour amorcer la revue de presse. Pour l'instant, on écoute l'artiste Girard avec une pièce intitulée Quelque chose dans l'air.
Personne ne le dit.
16h31, vous êtes toujours dans le débrief. Alexis Gagnon au micro avec vous jusqu'à 17h. On va commencer la revue de presse tout de suite. J'ai remarqué un texte fort intéressant dans les pages du Devoir, section éditoriale. C'est signé Fabien Deglise. Ça concerne l'attentat de Nice dont on a parlé dans le débrief de jeudi, mais ça n'était qu'une mention très rapide en passant puisqu'il venait tout juste de se produire. Alors on revient sur cet attentat survenu il y a quelques jours à Nice dans le sud de la France, et l'excellent texte de Fabien Deglise dans Le Devoir nous en donne l'occasion. Ça s'intitule « Le leurre de la surveillance ». S'il fallait une nouvelle preuve, la voici, écrit-il. L'attentat odieux perpétré au camion lors des festivités du 14 juillet à Nice n'a pas pu être évité, même s'il s'est joué dans la ville la plus vidéo-surveillée de France. Depuis 2010, en effet, sous la houlette de l'ex-maire de l'endroit, Christian Estrosi, un conservateur proche de Sarkozy et chantre comme lui du discours hyper sécuritaire, 1200 caméras y ont été installées. Donc, l'ex-maire Estrosi, oui, avait installé 1250 caméras, transformant le quotidien des Niçois, écrit Fabien Deglise, en véritable Truman Show, un excès de surveillance cultivé au nom d'une sécurité qui, aujourd'hui, encore plus qu'hier, ne s'avère rien de plus qu'un triste leurre. Donc, l'auteur, dans ce texte, s'attache à démontrer que la surenchère de surveillance n'apporte aucune sécurité supplémentaire. Et c'est très bien écrit, c'est beaucoup plus long, je n'ai pas le temps de vous en lire tous les passages. Je mentionne qu'il souligne qu'en plus d'être inutile, la vidéosurveillance à tout craint, réduit en plus la sensation de liberté et d'individualité des citoyens. Elle a pour effet d'écraser les gens, de créer un climat d'autocensure où l'être humain, dit-il, perd sa créativité, devient craintif et soumis. Alors voilà le tribut, voilà l'héritage de la vidéosurveillance. Aucunement efficace, écrit Fabien Deglise, contre les attentats. Et en plus, elle pollue, elle diminue la qualité de l'échange public et de l'échange social dans la cité. Donc, un texte à lire absolument. Ça s'intitule « Le leurre de la surveillance » à propos de l'attentat de Nice. Autrement, il me manque de temps nécessaire, mais je vous mentionne tout de même qu'il y a un excellent texte dans le Times Colonist d'aujourd'hui sur la question des oléoducs, et particulièrement de l'oléoduc Trans Mountain de la compagnie Kinder Morgan. Il y a plusieurs membres des Premières Nations actuellement en Colombie-Britannique qui avertissent le gouvernement Trudeau de ne pas faire les mêmes erreurs que le gouvernement précédent, à savoir le gouvernement Harper. Il rappelle au Premier ministre Trudeau qu'il est tenu d'entendre les Premières Nations, d'entendre ce que les Premières Nations ont à dire à propos des projets d'oléoduc, et en particulier ce que les Premières Nations ont à dire à propos du projet Trans Mountain. Donc, le titre de l'article dans le Times Colonist s'intitule « Trudeau making same mistake as Harper on pipelines, critics say ». Vous trouverez facilement cet article, c'est en première page du Times Colonist aujourd'hui. On va se rendre à l'interview dans quelques instants. Aujourd'hui, on se focalise sur un autre événement d'actualité des derniers jours, un événement qui a surpris la communauté internationale, à savoir le putsch raté d'une faction de l'armée turque contre le président Erdogan. Je m'entretiens avec notre chroniqueur régulier Jean-Christophe Leblond, qui, à titre de témoin attentif de l'évolution géopolitique au Moyen-Orient, nous apporte un premier éclairage sur la situation de la démocratie en Turquie, à la lumière des événements de vendredi. Je note que cette conversation a été enregistrée avec Jean-Christophe le samedi 16 juillet en fin de journée. On écoute ça dans un instant. De retour dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. C'est le moment de passer à l'interview du jour. Je suis en compagnie de Jean-Christophe Leblond qui est au bout du fil. Jean-Christophe est architecte et spécialiste des questions d'aménagement du territoire. C'est sur ces sujets-là qu'il intervient normalement à l'antenne. Il est par ailleurs très attentif à l'actualité du Moyen-Orient. Il a passé du temps en Turquie et en Iran notamment. Et on va aujourd'hui lancer la conversation tous les deux à titre de témoin d'un événement qui est encore tout chaud, la tentative de coup d'État qui est survenue en Turquie il y a quelques jours. Alors précisons d'entrée de jeu que cette conversation a lieu le samedi 16 juillet. Donc c'est encore tout récent peut-être que d'autres événements se seront déroulés d'ici la diffusion de lundi. Mais je pense qu'on peut circonscrire plusieurs éléments importants. Bonjour Jean-Christophe.
Oui, bonjour Alexis.
Alors, l'Occident a paru pris de court par cette tentative de putsch dans la journée de vendredi. Est-ce que les observateurs avaient vu venir ce phénomène?
Ben, il semble que non. Et je pense que la plupart des observateurs s'entendraient pour dire qu'ils pensaient que l'époque des coups d'État, de l'intervention de l'armée dans les affaires du gouvernement élu était révolue. Mais il semble qu'il y avait encore certains nostalgiques au sein de l'armée qui se sont dit que c'était peut-être leur dernière chance d'essayer, parce que justement, on sait qu'il y avait eu un certain nettoyage qui avait été fait au sein de l'armée par Erdogan et l'AKP, et qu'il semble que cet automne ou en septembre, il allait y avoir encore une possibilité là, que des éléments de l'armée qui soient insoumis se retrouvent sur la sellette et soient encore démis de leurs fonctions.
D'accord. Donc, la Turquie a derrière elle plusieurs coups d'État et ils surviennent depuis les années 60, on peut pas dire à cadence régulière, mais ils se sont produits à au moins 4 reprises. Donc, celui-ci a échoué. Peut-être ce qui a étonné plusieurs observateurs aussi, c'est un certain amateurisme et une façon de procéder qui était très vieille école. Est-ce que tu... corrobore?
Oui, en effet, et je pense que ce qui a changé, c'est justement, et ça on peut dire que c'est, je pense pas que dans l'ensemble ce soit un événement positif, parce que bon, ça peut renforcer la tentation totalitaire d'Erdogan, ça peut lui donner une justification pour aller terminer la concentration de pouvoir entre ses mains qu'il cherchait à faire depuis un certain temps.
C'est jamais fini.
Non, mais s'il y a un élément qui est malgré tout positif, c'est de voir que vraiment l'armée n'est plus cette institution qui surplombait le pouvoir civil et qui pouvait lui dicter sa conduite quand ça ne faisait pas son affaire. Et s'il y a un élément positif, un dénouement positif dans cette histoire-là, c'est probablement ça, même si on sait que l'ensemble des conséquences de ce putsch manqué risque d'être...
assez rigoureux. Oui, alors c'est le verre à moitié plein. Oui, absolument, c'est valable comme lecture. D'ailleurs, dans les médias sociaux hier, lorsque dans les premières heures on a appris que le putsch était en cours, plusieurs se levaient avec enthousiasme pour justement se réjouir de la mise au rancard de Erdogan. Mais rapidement, plusieurs voix se sont élevées pour dire ben, attendez, regardez ce qui s'est passé en Égypte. L'armée, ça n'amène rien de bon, généralement. Il y a d'autres exemples dans le passé aussi. Donc, il y y avait un coup d'État au ralenti qui était mené sur plusieurs années par Erdogan, mais il y avait encore une certaine base de démocratie. Alors l'armée allait jeter à bas tout ça. Finalement, ils n'ont pas hésité à bombarder le Parlement. Ils avaient probablement une vision qui était lointaine, qui était assez éloignée de la démocratie, même s'ils l'invoquaient dans leur justification.
Ben voilà, est-ce qu'on peut vraiment compter sur le renversement d'un pouvoir qui, malgré tous ses travers, était démocratiquement élu?
Oui.
Par l'armée pour rétablir la situation, j'en doute très fortement.
Oui.
Ouais.
Et certains observateurs ont justement déploré le fait que les Turcs soient placés face à un choix impossible, donc entre la peste et le choléra, quelque part,
oui.
Puisque l'armée ou Erdogan, finalement, les libertés souffrent énormément, la démocratie est en érosion permanente. On a appris le lendemain de la tentative que Erdogan avait déjà amorcé les purges. Il y a plusieurs juges qui ont été arrêtés. Il y a plusieurs membres de l'armée, évidemment. On parle de 1500 officiers qui ont été arrêtés. J'ai vu ça passer sur les fils de nouvelles. Donc, Erdogan a déjà commencé ses purges. Et les plus cyniques pensent même que Erdogan avait déjà tout planifié, que c'était qu'un spectacle qui avait pour but, en définitive, de lui permettre de concentrer encore plus de pouvoir. Est-ce que ça te paraît vraiment le comble du cynisme, ou est-ce que c'est...
Ben, écoute, je veux dire, c'est difficile de savoir avec une certitude absolue, évidemment, surtout maintenant, à seulement 24 heures de l'événement. Ceci dit, ça serait quand même étonnant, je crois, parce que comme certains observateurs beaucoup plus informés sur la situation en Turquie que moi ont fait remarquer, si vraiment il y avait eu un coup d'État qui se planifiait, plutôt que d'aller jusque-là et de vraiment attendre que le Parlement se fasse bombarder et qu'il y ait des unités militaires dans les rues et qu'il y ait des chasseurs qui bombardent des chars d'assaut dans les rues d'Istanbul, il y avait voulu faire une mise en scène, il aurait pu simplement faire prétendre exposer un complot et
oui.
faire arrêter quelques personnes et les juger.
Oui.
Il y a un élément de réalisme dans tout ça qui laisse à croire que
oui.
ça n'était pas
mis en scène.
Une pièce monte. Ouais, c'est ça.
D'accord. Bon, il faut savoir que la Turquie est membre de l'OTAN. C'est une économie du G20. Donc, en tant que membre de l'OTAN, son armée est en lien constant avec l'OTAN. Donc, est-ce que l'OTAN était au courant? Est-ce que l'OTAN a donné son aval aux putschistes?
Ce qui est un peu la différence avec ce coup d'État-ci par rapport, ou cette tentative de coup d'État-ci par rapport aux autres, c'est que par le passé, surtout pendant la guerre froide, l'armée était une institution, l'armée turque était une institution sur laquelle les États-Unis comptaient parce qu'ils étaient à la première ligne, sur la première ligne face à l'URSS. Et donc, l'armée, même en temps lorsqu'elle commettait des coups d'État, pouvait compter sur le soutien des États-Unis et même du réseau d'information des Américains, de la CIA. Il semble que cette fois-ci, très rapidement, Obama a déclaré son soutien au gouvernement élu de Erdogan et s'est prononcé contre le putsch.
Oui, il n'en demeure pas moins que la sortie d'Obama est la ligne officielle, mais peut-être que les Américains étaient au courant et que lorsqu'ils ont vu que l'exécution était loin d'être menée traîner de main de maître avec un certain amateurisme, justement. Ils se sont résignés à adopter une ligne de statu quo ante, donc en assurant.
Ça pourrait, oui. Mais en même temps, il reste que la raison pour laquelle le coup d'État était relativement... n'a pas réussi, c'est que c'était pas les coups d'État passés, c'était l'armée en tant qu'institution qui intervenait de façon unie et à partir vraiment du haut de la hiérarchie, alors qu'ici c'était clairement une faction au sein qui n'a pas réussi à obtenir l'adhésion de l'ensemble de l'armée, et qui, semble-t-il, ce n'était pas les plus hauts gradés qui étaient derrière la tentative.
Alors, un autre point qui mérite d'être examiné et qui donne peut-être un petit peu de poids à ceux qui croient que les États-Unis étaient du moins au courant, c'est que celui qu'accuse Erdogan actuellement d'avoir fomenté tout ça, c'est un homme qui habite aux États-Unis, c'est un exilé, un ancien allié d'Erdogan qui s'appelle Gulen. Est-ce que ça te dit quelque chose?
Oui, mais encore une fois, je serais prudent parce que est-ce qu'il faut croire aux mots ce que dit Erdogan dans une situation comme celle-ci, où c'est sûr que chaque chose est calculée pour avoir un impact politique.
Oui.
Peut-être que Gulen est un épouvantail commode.
J'allais dire une tête de Turc, mais...
Voilà, un bouc émissaire.
Un bouc émissaire, voilà. Donc, à suivre assurément dans les prochains mois, la concentration du pouvoir entre les mains d'Erdogan est en cours. Qu'est-ce que ça veut dire pour la région? Qu'est-ce que ça veut dire pour la Syrie voisine, l'Irak voisine? La Turquie partage des frontières avec l'Irak, la Syrie, l'Iran, avec l'Europe. Donc, c'est un endroit assez important. Est-ce que, au niveau régional, toi, tu vois des conséquences?
Au niveau régional, je pense pas. Ben, une chose qui est claire de la réaction de tout le monde présent, comme tu as dit, peut-être que c'était simplement une réaction face à l'échec du coup et que s'il avait réussi, la réaction aurait été différente. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'en ce moment, tous les voisins ne désirent qu'une seule chose, c'est que la situation est déjà extrêmement déstabilisée, ne s'empire pas dans la région. Alors, je pense qu'il y a une certaine sincérité dans le fait que pratiquement tous les chefs d'État voisins ont déclaré que ils ne voulaient pas voir le gouvernement légitime se faire renverser.
Bien vu, bien vu.
Je pense qu'il y a un souci de continuité, de stabilité, malgré le fait que la situation en Turquie s'est quand même dégradée récemment.
Oui.
L'autre chose, je pense qu'il y a une certaine réflexion à avoir au niveau de la démocratie, parce que même si les événements en Turquie peut-être se sont déroulés de façon, disons, un peu plus prononcée que ce qu'on voit ailleurs, Erdogan...
L'Égypte est un cas analogue... L'Égypte des dernières années avec...
Je pense pas nécessairement parce que c'est un pays qui n'a connu pratiquement que la dictature depuis des décennies.
C'est vrai, c'est vrai.
Tandis que la Turquie a des institutions démocratiques, a une culture de débat et d'élections. Mais c'est que Erdogan a réussi à se faire réélire dans une élection que... dont on n'a pas entendu dire qu'elle avait été truquée, a quand même réussi à se faire réélire avec une majorité, lui et les partis alliés.
Et on l'a vu dans la réaction de la rue aussi, il a un soutien voilà. populaire très musclé,
donc,
très
donc
motivé.
Il faut pas nier le fait qu'il reste démocratiquement élu malgré tous ses travers et malgré son impopularité très forte au sein d'un certain segment de la population. Mais il y a quelque chose à voir aussi par rapport à la démocratie en général et qui s'applique chez nous aussi par rapport à la façon dont il s'est fait réélire, parce qu'on sait que il y avait eu une élection en 2013, si je me souviens bien, ou même...
2014, oui.
2014, où il n'avait pas réussi à obtenir la majorité. Et c'était un parti de gauche qui l'avait frustré dans ses ambitions. Et la façon de réussir à fédérer la population autour de lui et de son parti a été de plonger la Turquie dans une crise sécuritaire en réenflammant le conflit avec les Kurdes.
Oui.
Et ça a fonctionné.
Et l'armée était assez bien en cheville avec lui quand il s'agissait de combattre les Kurdes.
La tradition kémaliste est très, très fortement nationaliste et centralisatrice, donc elle n'a aucune sympathie pour les minorités. Et l'armée, évidemment, se voit comme la garante de l'héritage kémaliste. Mais la réflexion au niveau de la démocratie, c'est que cette stratégie-là de mettre le feu pour créer un sentiment d'insécurité qui concentrerait le vote autour du pouvoir, ça marche dans d'autres pays aussi.
Oui, on l'a vu un peu partout, même en Occident.
Absolument. Et je veux dire, il n'y a qu'à penser à George Bush. Sa deuxième élection était due au contexte sécuritaire que lui-même avait alimenté en envahissant l'Irak. Donc, c'est que les stratégies qu'on a vues déployées en Turquie et qui peuvent nous sembler évidentes parce qu'on n'y est pas et qu'on n'est pas directement impliqué, mais en fait, elles sont fréquemment utilisées dans toutes les démocraties pour manipuler le vote, en fait.
Oui. Et on parlait tout à l'heure du rôle de la Turquie dans l'OTAN, mais la Turquie exerce aussi un rôle sur le continent européen, sur le continent européen. L'Union européenne attend de la Turquie qu'elle gère la crise migratoire. Elle attend également de la Turquie, et ça vaut pour les États-Unis aussi, les attentes des États-Unis, qu'elle soit une alliée dans le conflit qui sévit contre l'État islamique. Et justement, tout le monde a intérêt à ce que la Turquie demeure stable.
Voilà, exactement. Et puis malgré les hésitations d'Erdogan pour des raisons
de parenté religieuse avec l'État islamique.
Non, je pense que c'était vraiment plus un calcul géostratégique, dans le sens que pour lui, l'ennemi principal, c'était les Kurdes. La menace principale, c'était de voir un autre État autonome kurde se former après celui dans le nord de l'Irak. De voir un autre État autonome kurde prendre forme dans le nord de la Syrie, à la frontière de la Turquie. Pour lui, c'était ça la principale menace. Et donc, en fait, le Daesh se retrouvait à être l'ennemi de mes ennemis et mon ami.
Et donc, il a pactisé, et ça, c'est documenté.
Il a vraiment pas fait beaucoup d'efforts pour combattre Daesh. Et pendant ce temps-là, il a combattu ou en tout cas tenté de mettre des bâtons dans les roues des Kurdes qui, eux, combattaient.
Oui, Daesh. Oui, bien
Mais,
relevé.
Le fait est que depuis, il a fait un revirement parce qu'il s'est rendu compte que sa position était intenable et que il est l'allié de fait aussi bien de la Russie que des États-Unis, même si il y a quelques mois, sa position était beaucoup plus ambigu.
Oui. Donc il est vraiment au cœur d'un échiquier très complexe. On parlait du verre à moitié plein tout à l'heure. On peut se réjouir que le coup ait échoué parce qu'une guerre civile entre factions de l'armée sur le territoire turc, ça aurait été justement comme une tache d'huile qui s'étend à partir de la Syrie jusqu'en Turquie. Et c'est un scénario d'épouvante pour de nombreux voisins et pour les grandes puissances.
Oui, ceci dit, j'ai pas l'impression, je pense que la Turquie est un pays aux institutions suffisamment fortes pour que ça ne se produise pas, dans le sens que si le coup d'État avait réussi, probablement que il y aurait eu de l'instabilité, il y aurait eu de la violence, les institutions démocratiques auraient été encore plus affaiblies, mais ça m'aurait vraiment étonné que le pays sombre dans l'anarchie.
D'accord.
C'est vraiment c'est pas la situation des pays voisins où, par exemple, pour que Daesh puisse naître, il a fallu d'abord que les États-Unis annihilent toute forme d'institution et de continuité à l'intérieur de l'Irak.
Dont l'armée.
Dont l'armée.
Oui.
Exactement. Oui. Et comme l'armée en Turquie, qui est une institution quand même forte et respectée, l'armée irakienne aussi était une institution très importante pour les Irakiens, qui avait été probablement l'institution qui avait montré le plus de continuité depuis l'indépendance de l'Irak. Et c'est la première institution que les États-Unis ont complètement démantelée,
dissoute,
après
oui.
avoir conquis le pays. Et d'aucuns disent que c'est de là qu'est né Daesh, entre autres, parce
oui.
qu'on sait que des hauts gradés de l'armée irakienne se sont retrouvés ensuite directement...
Oui, avec des armes en plus. Et des...
Avec des armes et tout. Donc,
oui.
donc la différence, c'est que en Irak, le pays a été complètement démantelé et c'est ce vide qui a permis
oui.
À Daesh de prendre forme. Et puis
avec des sponsors du Golfe aussi, disons-le.
L'État irakien avait été complètement détruit et que, en même temps, en Syrie, il y avait déjà une situation extrêmement instable qui était beaucoup plus
oui.
profonde que ce qu'on trouve en Turquie.
Oui, bien, bien résumé. On va devoir s'arrêter là, Jean-Christophe. Fascinant que d'examiner tout ça à titre de témoin, bien sûr. Jean-Christophe Leblond, architecte et spécialiste des questions d'aménagement du territoire, mais également observateur attentif de l'actualité du Moyen-Orient et voyageur occasionnel au Moyen-Orient également. Grand merci, Jean-Christophe, et au plaisir de se reparler de géopolitique prochainement.
Ben, merci à toi, Alexis, et puis à une prochaine.
D'accord, au revoir. C'était Jean-Christophe Leblond à l'antenne de CILS FM 107,9 dans l'émission Le Débrief. Il reste quelques instants à cette émission. À 17h, ce sera Allô la planète, comme d'habitude, animé par Éric Lange. Merci d'être à l'écoute au cours des prochaines heures. On va se retrouver demain à 16h, comme d'habitude, pour un nouveau rendez-vous d'info. Je mentionne rapidement qu'on a une probabilité d'averse de 40% dans les prochaines heures, avec une possibilité d'orage par ailleurs sur Victoria. Donc, vigilance si vous êtes à l'extérieur ou en voiture. Et pour demain, mélange soleil-nuage avec une probabilité d'averse de 30% et un maximum de 21 degrés. Là-dessus, je vous remercie pour votre écoute et vous dis excellente soirée. À très bientôt.